Le journal présenté par Nicolas Meusy.
Bonjour, Laura Chenia remonte sur scène. La franc-montagnaire de joue son deuxième seul en scène, baptisé Les Amis, ça s'arrose combien de fois ? Dès ce soir au Théâtre du Jura à Delémont. Ce nouveau spectacle arrive 2 ans après le premier et a nécessité une étude approfondie du thème de l'amitié. L'avenir financier de Delémont se décidera dans 17 jours. Les citoyens de la capitale se prononceront le 9 février sur le budget 2025 qui prévoit une hausse de la quotité d'impôt. Un débat s'est tenu ce matin à RFJ entre le camp du oui et celui du non. Résumé des échanges dans ce journal. L'espoir s'évanouit au HC Ajoie. Les hockeyeurs jurassiens ont perdu 7-3 à Ambry hier chez un concurrent direct au maintien en National League. Ce revers condamne le HCA au play-out selon notre consultant Martin Bergeron. Météo, après la pluie, le beau temps, des conditions sèches et des éclaircies nous attendent dès cet après-midi. Les températures sont plutôt douces pour la saison, jusqu'à 6 degrés en plaine et 1 sur les hauteurs. Laura Chenia est de retour sur scène après son premier seul en scène sorti il y a 2 ans. La comédienne jurassienne présente Les Amis, ça s'arrose combien de fois par semaine ? La première, c'était mardi à Yverdon et le spectacle arrive dès ce soir au Théâtre du Jura. Dans cette pièce qu'elle a écrite, Laura Chenia raconte un chagrin d'amitié qu'elle a vécu. Elle explique ce qui lui a donné envie de se lancer dans un deuxième seul en scène.
En termes de timing, j'avais pas prévu absolument d'être déjà 2 ans plus tard avec un nouveau spectacle. Mais je suis autrice résidente au Théâtre du Jura. C'est un programme national qui s'appelle Stuc Labor. Et dans ce cadre-là, j'avais un spectacle à écrire. Et je me suis dit, bah, autant me servir la soupe et m'écrire à moi un spectacle. Et mon spectacle est traduit en allemand. Pour le coup, parce qu'il sort dans une brochure, etc., et sur le site de Stuc Labor. Donc j'ai eu plein d'échanges là pendant le mois de décembre avec ma traductrice. Donc c'est quand même très particulier de devoir lui expliquer le patois jurassien. Mais oui, c'est drôle, comment on dit t'es bef, t'es cricapieux en allemand. Hein. Bon, c'est une bonne question. Voilà, c'était un joli débat. Et puis en fait, Presque Phèdre, c'était vraiment le spectacle que j'avais envie de faire depuis il y a 10 ans, c'est-à-dire un biopic, mais à 30 ans. Et puis là, tout d'un coup, je trouvais intéressant d'entrer dans l'écriture avec une autre démarche, c'est-à-dire me dire une thématique, enfin toujours le truc de la biofiction avec une thématique vraiment aller creuser. Et j'ai lu vraiment des jeunes philosophes qui écrivent sur l'amitié, mais aussi Aristote, Cicéron. Enfin, j'ai vraiment plus étudié ça comme une grosse dissertation, comme un gros sujet sur l'amitié, un sujet que je ne connaissais finalement assez mal parce qu'on pense que c'est inné, mais non, ça s'apprend aussi, le langage de l'amitié. Et ensuite, j'en ai fait un spectacle.
Laura Chenia était l'invitée de la matinale. Entretien complet à retrouver en images sur rfj.ch. Son spectacle est complet ce soir et demain au Théâtre du Jura. Il reste des places pour samedi 18h. Les citoyens de Delémont se retrouvent face à une décision importante pour l'avenir financier de la ville. Ils voteront le 9 février sur le budget 2025 qui prévoit une hausse de la quotité d'impôt d'un dixième. L'augmentation de la fiscalité a pu être réduite grâce à un compromis passé entre le Parti Socialiste, le PCSI et le Centre. La ville de Delémont doit éponger d'ici 2027 son découvert au bilan qui se monte à 4,8 millions de francs. RFJ a organisé ce matin un débat avec Maël Bourcard, président du groupe PS au Conseil de Ville, et Christophe Günther, président du groupe PLR. Le camp du non au budget rejette la hausse de la quotité d'impôt et reproche à la ville et aux partisans du oui de ne pas avoir de stratégie. Maël Bourcard répond à cet argument.
L'ensemble des partis puis la population demande effectivement un peu cette feuille de route. Elle est en cours. Depuis qu'on a eu l'annonce en fait des répercussions cantonales sur les rentrées fiscales, les groupes ont travaillé ensemble. Ce consensus est sorti suite à un groupe de travail multiparti. L'ensemble des partis ont travaillé, ce qui était une bonne chose. Maintenant, effectivement, on s'est rendu compte qu'on pouvait la diminuer, cette augmentation d'impôts. C'est finalement ce qui est présenté en tant que budget. C'est un budget du Conseil de Ville qui a été adapté par le Conseil de Ville, où on diminue quand même d'un tiers ce qui est proposé par le Conseil communal. Donc les élus aux législatives ont fait ce travail. Et parallèlement à ça, effectivement, il faut continuer de travailler. Et où on ne rejoint pas les opposants par rapport à ce budget, c'est que cette ligne directrice, on doit la construire ensemble. Elle a été mise en place par le conseil communal, par les services de l'administration. Puis maintenant, nous, ce qu'on doit faire, c'est l'accompagner pour qu'elle aille effectivement dans le sens de la population. Et le message qui est donné, en fait, par les opposants de dire non au budget, il ne fonctionne pas pour la simple et bonne raison qu'on va bloquer l'administration, en fait, pendant plusieurs mois. Et bloquer l'administration, ça implique, en fait, une répercussion directe sur les prestations à la population.
Ça, Christophe Günther, précisément, est-ce que vous n'êtes pas un peu dans le « y'a qu'à faucon » et puis, ben, sans cette hausse de la quotité, la ville se retrouverait contrainte de diminuer des prestations, de supprimer des postes de manière abrupte ?
Non, alors pas du tout. Notre but, ce n'est pas effectivement de bloquer la commune. C'était aussi pour cette raison qu'on a accepté si facilement le référendum obligatoire qui poussait à ce qu'on vote plus ou moins un mois après le début de l'année. Si on avait suivi les dispositions normales, ben, ça aurait repoussé une votation, je ne sais pas quand, mai, avril, ce qui aurait bloqué les services communaux encore plus longtemps. Nous, effectivement, on voulait aller de l'avant le plus vite possible et je pense que les personnes, assez rapidement, les citoyens qui iront voter, comprennent assez rapidement l'enjeu de la situation et on n'a pas besoin d'attendre effectivement plus long.
Christophe Günther et Maëlle Bourcard étaient interrogés par François Comte. L'intégralité du débat sur la votation du 9 février sur le budget 2025 de Delémont est à retrouver en intégralité et en vidéo sur notre site internet rfj.ch. L'Office fédéral du logement célèbre ses 50 ans. Il en a profité pour revenir sur son rôle et son histoire ce matin devant les médias à Berne. L'Office a été créé en 1975 pour encourager la construction d'habitations et abaisser les prix des loyers. Aujourd'hui, il doit faire face à une pénurie majeure de logements dans la quasi-totalité de la Suisse. Mais cette situation n'est pas exceptionnelle. Martin Tschirren, le directeur de l'Office fédéral du logement.
La Suisse a en plusieurs reprises vécu des pénuries de logements, peut-être aussi même plus fort que celles qu'on a aujourd'hui. Mais il y a toujours un certain effet cyclique. Si on regarde la situation, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une longue période de pénurie dans les années 50, 60 et jusqu'au début des années 70. C'était justement cette longue période de pénurie qui a mené à ce nouveau article constitutionnel. Et puis aujourd'hui, c'est la grande question. Est-ce qu'on est dans une situation cyclique de nouveau et que ça va s'améliorer dans quelques années, ou bien est-ce qu'on est dans une situation structurelle dans laquelle cette pénurie va nous accompagner encore plus longtemps? Mais c'est encore trop tôt de donner une réponse définitive, mais je crois que pour l'instant, on doit laisser cette question ouverte.
L'Office fédéral du logement organise plusieurs événements cette année pour fêter comme il se doit ses 50 ans, notamment une journée porte ouverte le 4 juillet à Berne. La Confédération a versé 17 milliards de francs aux entreprises pour les aider à surmonter les difficultés financières liées à la pandémie de Covid. 5 ans plus tard, près des 3/4 des 138 000 crédits accordés ont été remboursés, selon les chiffres publiés sur le site du secrétariat d'État à l'économie aujourd'hui. Le président de l'Argentine tacle le wokisme à Davos. Javier Milei a déclaré aujourd'hui au Forum économique mondial vouloir rendre sa grandeur au monde occidental, disant que le wokisme avec les droits LGBT, l'avortement ou encore l'égalité homme-femme est le cancer de notre temps. Il a aussi accusé certains dirigeants européens de vouloir réduire au silence ceux qui luttent contre le wokisme et a cité pour alliés des chefs d'État comme l'italienne Giorgia Meloni, le hongrois Viktor Orban ou encore le milliardaire Elon Musk.
Vous écoutez RFJ, les 12h23.
RFJ Sport.
La défaite d'hier soir à Ambry était-elle celle de trop pour le HC Ajoie ? À la lecture du classement de National League ce matin, l'équipe jurassienne devrait combler un écart virtuel de 17 points pour espérer éviter les play-outs. Il en reste 36 en jeu, pile le nombre de points acquis jusqu'à aujourd'hui. Alors même si mathématiquement tout reste possible, il semble qu'Ajoie soit désormais condamné à disputer la série de play-outs. Un avis argumenté par notre consultant hockey Martin Bergeron.
Malheureusement, j'ai envie de dire que oui, parce que maintenant, il y a trop de points qui séparent Ajoie des autres équipes. Il y en a trop à rattraper aussi pour espérer de faire quelque chose. Donc, si poumoner ou à perdre de l'énergie bêtement pour éventuellement réussir à passer 13e plutôt que 14e, je ne crois pas que ce soit la bonne stratégie. Ces étrangers, à mes yeux, n'ont plus le même rendement qu'ils avaient à un certain moment parce que on leur donne beaucoup trop de temps de glace depuis trop longtemps maintenant déjà. En plus, la blessure de Tokolainen a aussi changé énormément la physionomie de cette équipe. Alors, pour moi, la stratégie à adopter maintenant, c'est de partager le temps de glace jusqu'à la fin de saison avec tout le monde pour que quand on va arriver dans les playoffs, que tout le monde soit à 100% puis qu'ils aient encore de l'énergie.
Il y a un mois et demi jusqu'au début des playoffs, c'est pas une période trop longue déjà pour penser à tout ça?
Non, parce que l'énergie que les joueurs, surtout les étrangers, parce que c'est surtout eux hein, qui ont énormément de temps de glace, alors à un moment donné, pour reprendre l'énergie, parce que j'ai été hockeyeur quand même pendant assez longtemps, ça se fait pas en une semaine. Hein. Ça prend des fois 4, 5, 6 semaines. C'est exactement plus ou moins ce qu'on a avant d'arriver au play-out. Donc pour moi, c'est pas trop tôt, non.
Martin Bergeron était au téléphone de Cyprien Lovie. Le derby jurassien de football joué hier soir au Pré-Rose était l'occasion de tester de nouveaux joueurs de part et d'autre. Les SR de Lémont, pensionnaires de Promotion League, ont dominé leur voisin de Première Ligue, le FC Basse-Cour 3-0 en amical. Si le FCB n'avait qu'un nouveau joueur aligné, le jeune Robin Houchy de Lémont en avait 6. Et parmi eux, Souleymane Turkes. Après avoir joué plus d'une année et demie à Delémont, le germano-turc a tenté sa chance en Turquie sans succès. Il explique les raisons de son retour en Suisse, Souleymane Turkes.
Je suis revenu parce que l'aventure en Turquie était bien différente de ce que j'ai vécu en Suisse. Ici, en Suisse, c'est plus professionnel, comme on dit, dans tous les secteurs. En plus de cela, j'ai eu quelques complications en Turquie et c'est aussi pourquoi je suis revenu en Suisse. Delémont, c'est un très bon club, il y a beaucoup d'ambition et j'aime tous les joueurs, les coachs et tout le monde ici. Pour moi, c'était donc parfait de revenir à Delémont.
Des propos recueillis et traduits par Loïc Jourgi. Les SRD pourront également compter sur Johan Curie qui a participé à la promotion en Super League d'Yverdon, Amine Boukaoui, Hugo Allo, Enzo Vincent et Abdoulaye Traoré. Retrouvez tous les détails sur rfj.ch. Arina Zabalenka visera samedi son troisième titre consécutif à l'Open d'Australie de tennis. La numéro 1 mondiale s'est imposée en demi-finale face à l'Espagnole Paola Badosa, 6-4, 6-2. La Biélorusse de 26 ans a remporté ce matin son 20e succès consécutif à Melbourne. Elle affrontera samedi en finale la gagnante de la partie qui se joue en ce moment même entre l'Américaine Madison Keys et la Polonaise Iga Świątek. C'est la Polonaise qui a remporté le premier 7 jeux à 5 face à l'Américaine. Vous retrouverez plus tard le résultat de cette partie. Merci de votre écoute. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite un bon appétit et une belle suite de journée.